Merci à tous ceux qui se joignent à nous un peu partout sur le grand réseau des stations Cogeco. Je salue les gens de la Mauricie, de la région de Sherbrooke, de Gatineau. Merci d'être là aussi, tous ceux qui, dans la grande région de Montréal, se joignent à l'émission. On va parler d'Alzheimer. Et on se pose souvent la question en début d'année, parce que janvier, vous le savez, c'est le mois de l'Alzheimer. Et la question de l'espoir, c'est souvent la première qui nous vient parce que on craint tous d'avoir, même si on n'en a pas forcément dans notre famille, génétiquement, on se dit, bon, c'est sûr qu'il y a un risque accru si tu en as dans ta famille, mais si vous n'en avez pas, vous risquez peut-être quand même de développer la maladie. On sait très peu de choses finalement sur cette maladie qu'on étudie quand même depuis un certain temps. Puis nous, au Québec, on est chanceux parce que je vous le disais, on a l'occasion d'avoir des spécialistes, entre autres le docteur Jude Poirier, qui est professeur titulaire au département de médecine et de psychiatrie à l'Université McGill. Il est directeur de la recherche sur le vieillissement, la cognition et la maladie d'Alzheimer au Centre de recherche de l'Institut Douglas. Merci, Jude, d'être avec nous.
Bonjour, Isabelle.
C'est notamment l'un de nos rendez-vous annuels.
Oui, oui.
Et j'aime bien qu'on fasse le point en début d'année parce oui. que les auditeurs sont avides d'informations sur l'Alzheimer. Il y a des gens qui ont sans doute reçu des diagnostics dernièrement. Il y en a dont les proches en ont reçu un. Et c'est une maladie qui fait tellement craindre le pire. Oui. Là-dessus, ça ne bouge pas beaucoup. Les craintes sont réelles.
Les craintes sont réelles et je te dirais, on a eu des sondages Gallup qui ont été effectués, surtout aux États-Unis. On n'a pas l'équivalent canadien, mais on peut penser que c'est la même chose. Où on demandait à des gens un grand groupe de gens, plusieurs milliers de personnes, qu'on a séparé les moins de 55 ans, les plus de 55 ans. Mm-hmm. Quelle maladie vous terrorise en vieillissant? Les moins de 65 ans ont tendance à parler de cancer, mais déjà, le troisième, c'est l'Alzheimer. Quand on parle des gens de 55 ans et plus, l'Alzheimer, c'est numéro un devant le cancer et les maladies cardiaques. Donc, l'inquiétude face à la maladie chronique, c'est l'Alzheimer qui est le nouveau champion du 21e siècle.
Incroyable. Puis bon, je disais, on sait peu de choses sur ces maladies. Qu'est-ce qu'on sait d'abord? On va commencer par là.
Je te dirais, d'un point de vue de la compréhension des mécanismes, comment ça fonctionne, quels sont les gènes, comme ce qu'on s'est parlé souvent, des facteurs héréditaires dans la famille. Là, on a des gènes. On en a découvert un nouveau l'année passée, en 2018, des groupes américains qui ont découvert ça. Pour cette fois-là, une cause génétique. Donc, si vous avez le gène, vous avez la maladie. Donc, c'est causatif. Mais la forme âgée familiale. On en avait eu trois avant ça, la forme jeune agressive, un peu comme ton invité de l'année dernière, la jeune femme là, oui. qui avait eu sa maladie avant 50 ans.
Ou comme le personnage de Marina Orsini là, dans une autre histoire. T'as regardé la semaine dernière, lundi dernier?
Oui.
Ouais. Et
oui.
Bon, c'est ce soir, la suite. Mais donc, elle, son personnage a 53 ans. Ça, oui. c'est une forme jeune d'Alzheimer.
Agressive, ouais. familiale. Donc, elle avait une chance sur deux de l'avoir. Et pour ses enfants, elle avait une chance sur deux de le donner à ses enfants. Avec deux enfants, c'est un sur deux, c'est sûr. Il y en a un des deux qui l'aura. Okay. Donc, ça l'a, et ça fait comme ça, ça suit génération en génération. Et ce qui est encore plus fascinant de cette maladie-là, mais en tout cas, c'est le chercheur qui te parle, là, mm-hmm. c'est que l'âge de début est presque identique entre le grand-père, le père, mettons, et la fille. Ça va être 47 plus ou moins 2 ans à chaque génération. Donc, quand on fait le test génétique, on sait que c'est causatif, vous avez le gène, vous aurez la maladie et ça va probablement être à 47 plus ou moins 2 ans. C'est précis à ce point-là.
Wow. Donc, ça, c'est pour le génétique.
La forme génétique.
Il y a ouais. tout le reste.
La forme commune de la maladie d'Alzheimer, si on n'est pas rendu là, mais un, il n'y a pas de gène causatif. Ce qu'on a, c'est des facteurs de risque. C'est-à-dire, vous avez hérité de vos parents des gènes légèrement défectueux qui augmentent votre risque, qui multiplient par 2, par 3, ou le gène que j'ai découvert il y a plusieurs années. Si vos deux parents vous donnent le gène défectueux, bien là, vous êtes malheureusement à 22 fois plus de risque d'avoir l'Alzheimer que quelqu'un qui n'a pas le gène. Donc, on parle de 93 % de chances d'avoir la maladie. Mais ce n'est pas 100 %. Donc, pour la forme commune de la maladie, on n'a pas de test génétique qui vous garantisse si vous allez avoir ou non la maladie. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de test génétique pour ouais. la forme commune.
Est-ce que les gens passent des tests? Est-ce que les gens sont
Il y en a qui veulent. Dans le cas de la forme jeune, je peux dire qu'on a une clinique à l'Institut Douglas pour la forme familiale jeune et on fait systématiquement, quand on fait l'histoire familiale, là, on voit c'est clair, on peut l'offrir et le gouvernement du Québec a finalement, au fil des années, accepté de payer. Parce que c'est dispendieux, c'est quelques milliers de dollars de faire le fameux test génétique et c'est fait quelque part aux États-Unis, dans le coin de Boston. Et là, on a la réponse, c'est-à-dire on va vous le dire si vous avez ou pas le gène défectueux.
Aïe, aïe, imagine que tu reçois, là, toi, t'as vu des gens réagir à ça, à cette nouvelle-là.
Oui, j'ai même fait un cheminement dans une émission de Télé-Québec avec une jeune fille dont le père venait tout juste de décéder et qui voulait savoir, elle avait 22 ans, et elle nous raconte, c'est Guylaine Tremblay qui était l'intervieweur, puis elle nous raconte comment elle se sentait, puis j'étais assis à côté dans la chaise, là, puis j'en avais des frissons, tu sais, c'est terrible de penser à ça, après 22 ans, tu sais, quand t'as 75 ans, puis tu t'inquiètes, tu dis, moi, j'ai un bout de vie de fait, là, mais à 22, là, if.
Toi, ta mère est morte de l'Alzheimer.
Ma mère est morte de l'Alzheimer, elle avait 94, donc j'ai eu le temps de vivre avec elle pleinement. Mais ce que j'ai vécu quand ça a commencé, c'est ce que tous les gens qui doivent vivre, hein, on était les aidants, les fameux aidants naturels dont la ministre Blais nous parle souvent. Ça, c'est le bout pas facile.
Et ta maman l'a eu à quel âge, l'Alzheimer?
Probablement 91. Donc, on était 3 ans là, où on a vu le déclin lentement, mais sûrement là, arriver.
Tu t'es testé?
Non.
Tu t'es pas testé?
Je me suis pas testé moi-même. Je vais être franc avec toi, j'ai un problème de santé qui est le diabète. Et au centre de recherche où on me suit, on nous teste. Parce que quand on accepte d'aller à cette clinique-là, on donne notre autorisation ou pas de faire partie des programmes de recherche. Et le médecin qui me suivait, lui, il faisait le test. Pas pour l'Alzheimer, dans le contexte des maladies cardiaques. Or, c'est le même test génétique. Et à un moment donné, il me dit, « Tu veux-tu savoir ton gène, ce que c'est? » Je dis, « Non, je ne veux pas le savoir. » Ah, il dit, « C'est comme tu veux. » Puis là, il me regarde, il dit, « Bah, t'inquiète pas. »
C'est pas tout de suite.
Je vais te demander, je l'ai pas. J'ai pas le gène défectueux, mais ça veut pas dire que j'ai pas de risque. Ouais, ouais. Ça faut être clair. On est rendu à 25 gènes de risque.
C'est ce que j'allais te demander. Il y en a combien? Parce que tu dis, il y a le gène de
année.
Ça. T'as le gène
année,
de cycle. Là, on est rendu à 25 gènes.
25 gènes de facteurs de risque. Donc, c'est pas un seul. Chacun rajoute son petit 2 % 7 % de risque, 8 % Ça, c'est du point de vue de la génétique. Et rappelle-toi, on dit souvent aux gens, puis ils sont tannés de nous entendre le dire, exercice, diète, mais tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire est devenu officiellement facteur de risque Alzheimer. Hypertension, cholestérol élevé, diabète, même l'obésité est un facteur de risque.
Aïe, aïe, aïe. Ouais. Méchante gang qui va avoir l'Alzheimer, parce qu'on dit que l'obésité, c'est le problème de santé numéro un.
Il est sorti une étude la semaine dernière qui était un peu intrigante. Ils ont comparé la sévérité de l'obésité et le volume du cerveau. Il y a une corrélation directe entre les deux, une corrélation inverse. Les gens obèses ont des cerveaux qui sont plus petits. On commence à voir des mesures quantitatives de l'impact sur le cerveau de quelque chose comme l'obésité.
Est-ce que ça serait dû au sucre? Parce que tu m'avais déjà dit que le sucre, c'est comme une espèce de... C'était du junk food pour le cerveau,
exactement,
finalement.
Exactement. Il y en a besoin, mais en excès. Et surtout, si c'est mal géré, c'est le problème avec l'obésité, parce que quand on est obèse, on devient résistant à l'insuline qu'on produit. Et les taux de sucre que notre cerveau voit sont anormalement élevés comparativement à ce que lui, il a besoin. Et le sucre, un peu comme le gras en excès, c'est très mauvais pour le fonctionnement des neurones. Et là, on pensait qu'il y avait des liens entre l'intégrité du cerveau puis la prise de poids, puis bon, le mauvais gras, puis le cholestérol, puis toutes ces choses-là. Mais qu'on ait maintenant quantifié le volume du cerveau, c'est-à-dire que l'imagerie cérébrale maintenant, c'est très sophistiqué, et vraiment la perte, littéralement, du volume du cerveau, là, c'est pas subtil, là, ça saute aux yeux.
Bon, donc, ça veut dire que plus tu es gros, plus ton cerveau est petit.
Oui. Bien, c'est pas des énormes pertes, on va être honnête. Là, on parle de quelques pourcents, mais ça a été fait dans une population relativement jeune. On parle des gens de...
Mais au niveau de la taille, carrément, là, du cerveau.
La taille du cerveau, le volume.
Le volume occupé dans la boîte crânienne.
En centimètres carrés. Fait que dis-toi que pour chaque unité de volume, il y a des milliards de neurones.
De neurones, donc plus, si ton cerveau est plus petit, il y a moins de neurones, forcément.
C'est
donc, tu as moins de capacité cognitive.
Exactement.
Et ça s'ensuit.
Les gens les plus obèses, qui avaient la plus grande masse corporelle, il avait perdu jusqu'à 5 cm cubes. 5 cm cubes, là. Prenez votre pouce, là. C'est presque un pouce par un pouce, là.
OK, c'est énorme.
C'est pas subtil, là.
Ouais. Donc, ce que tu nous dis, c'est soyez pas en surpoids.
Je sais qu'on est fatigant avec notre exercice, notre alimentation de style méditerranéen.
Mais c'est parce qu'on entend toutes sortes d'affaires. Écoute, je lisais un truc sur la maladie d'Alzheimer, OK, la semaine dernière. Là, on est quoi? On est le... On est mi-janvier. Ouais. Début janvier, autour du 10, là, on disait, le titre en plus portait un peu à confusion, ça disait « Manger de la viande aiderait à prévenir la maladie d'Alzheimer », alors qu'on nous rappelle depuis des années, éviter d'en manger et tout. Et là, c'est une étude qui a été menée par des chercheurs de l'Arizona State University qui disent que il y a un nutriment, la colline, c'est ça?
La colline, C-H-O-L-I-N-E,
qui aiderait à combattre les neurotoxines et l'inflammation cérébrale impliquées dans le développement de la maladie. Et donc, ce nutriment existe dans la viande, les œufs, le poisson gras, les noix et les légumes verts. Bon, alors évidemment, le titre focusait sur la viande, mais dans le fond, quand tu regardes ça, la viande, les œufs, le poisson gras, les noix, les légumes verts, il y a des bonnes choses là-dedans quand même.
Exactement.
Qu'est-ce que tu penses de ça?
On a fait l'étude de la colline pure. Ça s'extrait du blanc d'œuf. Et il y a quelques années, parce que c'est le précurseur d'une de nos neurotransmetteurs qui est utilisé dans la mémoire et l'apprentissage. Mm-hmm. Et on pensait, il y a presque 30 ans, là, que si on donnait un grand supplément de colline, qu'on pourrait peut-être fabriquer le neurotransmetteur de la mémoire. Or, la colline, tiens-toi bien, mm-hmm. n'entre pas dans le cerveau. Ça a été notre découverte. Après ça, les chercheurs ont été un cran plus loin. Ils ont dit, et si on mettait une grande aiguille qui irait porter la colline en plein centre du cerveau. Et puis, sous la peau, ils avaient mis une espèce de disque, c'était gros comme un puck de hockey, dans lequel il y avait un réservoir où ils remplissaient ça de colline, puis d'un analogue de la colline. Ils ont mis ça en dessous de la peau, le grand tube passait dans le cou, puis ça livrait directement dans le cerveau. Tout ça pour te dire, après 6 mois de travail, ça faisait absolument rien pour les patients Alzheimer.
Arrête donc. Donc, cette histoire-là, ça vient d'où? C'est pourquoi?
Dis-toi une chose.
Mais il y a tellement de fausses informations, Jules, là-dessus. Ça. Les gens finissent par être mêlés, avoir des espoirs où il n'y en a pas.
Oui.
Là, tu lis un article comme ça, tu dis, OK, mais je vais remanger de la viande, coudonc, si je pourrais être Alzheimer, si j'en mange pas. Tu comprends? Non.
Moi, je te dirais, si les gens s'inquiètent vraiment ou ils voient qu'il est passé quelque chose comme ça, allez soit sur le site d'Alzheimer Canada ou le site d'Alzheimer aux États-Unis. États-Unis, c'est encore mieux. Et vous allez souvent, la première étude qui sort sur un sujet comme celui-là, immédiatement, tous les spécialistes des sociétés Alzheimer vous disent, on va attendre de voir une confirmation. Parce que nous, scientifiques, c'est ce qu'on exige. Hein? Voir une chose une fois, c'est intéressant. Mais tant qu'on ne l'a pas vu deux fois, on n'y croit pas. Et après ça aussi, on a souvent les scientifiques qui arrivent dans le portrait et qui vous disent « Ouais, mais tu sais, ça a été fait dans les années 90, ça a été fait dans les années 80, mais les journalistes, ils arrêtent de chercher en 2015.
Ouais.
Ils vont pas loin dans le temps. » Et souvent, beaucoup de ce travail-là a été déjà fait, différemment peut-être, et certainement pas lancé comme ça. Et si c'était négatif, les gens n'ont pas parlé. C'était négatif.
Oui, je comprends. Puis il y a aussi beaucoup d'études qui se font sur des souris, par exemple.
Oui, ça, c'est l'autre. Oui, ça, c'est mon problème.
On n'est pas des souris.
Donc,
tu arrives ensuite, tu transposes ça à l'humain, puis les résultats qui ont pu, à la rigueur, être positifs, encourageants sur la souris, ne marchent pas du tout sur l'humain.
Tout à fait.
C'est un des problèmes auxquels vous faites face pour le moment.
Cette année, ça a été. J'ai fait une conférence publique avec tous les enfants de gens qui ont eu l'Alzheimer, qui sont dans mon étude de prévention. J'en avais 200 dans l'auditorium. Là, il m'avait demandé, fais-nous un survol de tous les médicaments qui ont été testés en 2017-2018. Puis je leur ai fait le sommaire, puis on a beaucoup d'études qui se sont terminées cette année. Et échec total de 6 vaccins et 3 molécules qui bloquent la production d'amyloïdes dans le cerveau. La fameuse amyloïde, c'est ce qu'on suspectait, on y croit plus, là, qui était au cœur de la maladie d'Alzheimer. Et quand tu fais le tour des études, tu recules dans le temps, tous ces médicaments-là, tous les vaccins, tous les inhibiteurs de synthèse avaient fonctionné merveilleusement bien chez la souris. Il avait tout enlevé l'amyloïde parfaitement bien chez la souris. Mais rendu chez l'humain, il n'y a pas un seul qui a fonctionné. Pire que ça, dans les 3 inhibiteurs de synthèse fabriqués par 3 compagnies différentes, donc des molécules différentes, des devis d'études différents, on n'a pas observé qu'il ne se passait rien. On a découvert que ça accélérait la maladie d'Alzheimer dans chacune des 3 molécules.
Et voyons donc.
Ouais. Pourtant, la souris était toute belle puis ça avait bien fonctionné.
Mais pourquoi on prend des souris? C'est les seuls qui se plaignent pas, c'est pour ça? Il faut arrêter de faire ça si ça marche pas.
Je t'avouerai qu'il y a un petit groupe de chercheurs comme moi. On était un petit groupe il y a peut-être une 15aine d'années qui avait énormément de réticence. Mais il y a une espèce de mouvement dans l'industrie pharmaceutique. Quand une compagnie fait quelque chose, toutes les autres font la même chose pour être, tu connais la game, pour être capable de faire un générique rapidement ou de faire une copie rapidement. Donc, les compagnies ne vont pas chacun partir de leur côté tester une hypothèse biologique. Ils font tous la même chose jusqu'à temps que tout s'écroule. Puis à un moment donné, ils se déplacent en mouton vers la nouvelle hypothèse scientifique. Là, on espère que celle-là est morte, là, parce que je suis vraiment désespéré de faire des entrevues comme avec toi puis de dire on a encore eu un autre échec.
Ouais. On va revenir avec le docteur Jude Poirier tout de suite après la pause. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas en faisant le 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Est-ce que vous avez des gens parmi vos proches qui vivent avec la maladie d'Alzheimer? Je vous rappelle qu'on est au mois de janvier et que c'est le mois pour la prévention de la maladie. On va reparler quand même de l'hormone de l'exercice parce qu'il faut quand même rappeler que c'est important. Il y a même quelque chose, une étude qui vient de sortir aujourd'hui aussi, je vais en parler avec le docteur Poirier, où on dit que l'exercice constitue peut-être la panacée tant recherchée en matière d'Alzheimer. Je vais avoir son opinion là-dessus et bien sûr vos commentaires tout de suite après ceci. On parle de la maladie d'Alzheimer avec le docteur Jude Poirier. Je vous rappelle qu'on est en plein mois de janvier puis qu'il y a une campagne de sensibilisation pour essayer de contrer la stigmatisation. Cette année, l'approche là, de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, Jude, c'est vraiment de donner la parole aux personnes atteintes, à leurs proches. C'est aussi ce que je vous donne l'occasion de faire ce matin. Si vous voulez témoigner de ce que vous vivez, vous gênez pas pour nous appeler au 514-790-9850 et sans frais, vous faites le numéro 1-866-790-9850. J'ai Joanne qui a écouté ce que tu disais tout à l'heure, Jude, à propos des études faites aux États-Unis versus au Canada. Puis qui dit, pourquoi l'étude américaine est mieux que celle au Canada? Est-ce qu'au Canada, ils sont pas à date, ils sont pas compétents? Demande Joanne.
Écoutez, ça va en fonction du financement qu'on a. Hein. Les Américains, souvent, ont les moyens de faire des plus grandes études avec plus de patients sur des plus longues périodes. Nous, ben, compte tenu des subventions qu'on a, on fait des choses qu'on peut faire, qu'on peut bien faire, mais qui doivent forcément coûter moins cher parce qu'on n'a pas d'argent.
Il y a Pierre qui m'écrit, il s'est porté volontaire pour participer à l'étude sur la maladie d'Alzheimer. Après quelques tests, on nous a avisé que l'étude est interrompue pour manque de fonds. L'étude, bon, j'imagine qu'il y en a plus qu'une, je ne sais pas de quelle étude.
Il y en a plus qu'une, mais ça, il doit parler de la nôtre, celle qu'on fait.
Elle est interrompue, ton étude?
C'est pas qu'elle est interrompue, on a fini la première phase qui était l'évaluation d'un médicament anti-inflammatoire. La première phase est complétée. Les gens qui sont toujours avec nous sont toujours avec nous. On a fait deux constats. Un constat, c'est qu'on pensait qu'on verrait des changements à l'imagerie cérébrale qui seraient importants chez des gens pas malades, mais qui ont une histoire de parents Alzheimer. Et bizarrement, ben, ça n'a pas décliné. Donc, ce qu'on est obligé de faire...
Sur l'imagerie, tu ne vois pas la différence entre deux scans, maintenant.
C'est ça, sur une période de 3 ans. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on espace les scans et on espace tout le travail de recherche qu'on faisait. Et d'une part, puis deuxièmement, c'est vrai, au niveau du financement, c'est toujours la même histoire. Comme là, on a étiré, maintenant, on va faire ça à coup de 2 ans. Il faut retourner voir les organismes subventionnaires puis redemander des fonds pour recontinuer. On pensait qu'en dedans de 2, 3, 4 ans, on verrait des déclins significatifs.
Peut-être c'est trop court comme période. Peut-être c'est 5 à 10 ans.
Honnêtement, on était sûr qu'on le verrait, compte tenu de la technologie, des données qui existaient déjà. Et finalement, le cerveau Alzheimer, non, plutôt le cerveau à risque est beaucoup plus résilient, c'est-à-dire qu'il combat bien mieux le processus de vieillissement et ou de la maladie d'Alzheimer. Et notre étude va falloir qu'elle se fasse sur de bien plus longues périodes. Puis l'argent qu'on avait, on avait eu de l'argent pour 7 ans, bien, on l'a dépensé sur les 7 ans. Et maintenant, on doit retourner chercher des petits morceaux de subventions au fédéral, au provincial. On a même fait des demandes aux États-Unis.
Es-tu sérieux?
Oui. On a un collaborateur américain avec nous. On se sert de lui pour aller aux États-Unis. C'est comme ça qu'on fait des études de longue haleine. Là, c'est très difficile au Canada.
Mais c'est un problème de santé publique, l'Alzheimer. Ah. Tout le monde a craint ça. En ce moment même, il y a plus d'un demi-million de Canadiens qui l'ont. On dit que ça va doubler dans 15 ans. Puis faut que t'ailles têter pour du cash.
Oui. Ouais, ben c'est ça la réalité de la recherche au Canada. À chaque fois, il faut... comme je disais, c'est facile de faire une petite étude 100 patients, 2 ans. Mais quand on vise du très long terme avec... l'imagerie cérébrale. Il y a un scan qu'on fait, un scan de l'amyloïde, justement, notre fameuse amyloïde. Il coûte 5 000 $ par patient. Si je veux voir le déclin ou l'accumulation dans le temps, c'est 5 000 $ chaque fois.
Mais pourquoi c'est 5 000 $ chaque fois?
C'est ça que ça coûte à faire. C'est le prix que coûte le scan, produire l'élément radioactif. C'est un élément radioactif qu'on injecte au patient. C'est ce que ça coûte. Donc, si je veux voir mon patient pendant une fois, mettons un scan à toutes les 2-3 ans, pendant une dizaine d'années, on parle de peut-être 25-30 000 $, mais j'ai 400 personnes dans mon étude de prévention. T'imagines les coûts? Mm. Ça, c'est un scan. Moi, je fais la génétique.
Oui, mais ça fait 1 200 000. Je veux dire, des millions, là. On a gaspillé sur d'autres affaires moins importantes, à mon avis, tu comprends? Après, c'est l'ordre des priorités.
C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a plein d'argent qui vont où ça ne devrait pas.
Écoute, on a Pierre qui est avec nous. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, mais écoute, ma femme, elle a été diagnostiquée à 56 ans comme ayant de l'Alzheimer. Apparemment, c'était rétroactif aussi, un an ou deux. Puis, moi, ma question, c'est de savoir si ça existe encore, les tests. Je l'ai amené l'année passée, au mois de mars. Est-ce que je peux nommer le médecin que j'ai vu, le neurologue?
Bon, c'est pas forcément nécessaire,
j'avais fait des démarches, puis il était allé pour les tests avec les Hertz, là, les micro-ondes. Je veux savoir si c'est prometteur. Apparemment, c'est prometteur. Puis il y a quelqu'un qui a suivi le test, mais j'ai pas eu des résultats. C'est ça, de savoir si c'est...
Votre femme a fait un test, mais n'a pas eu un résultat, puis ça fait un an?
Non, ma femme n'a pas été acceptée parce qu'il disait qu'elle était trop avancée. Ça prenait quelqu'un qui était vraiment au début. Puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qui était au début, un monsieur, que je vois de temps en temps, mais il n'a pas eu encore des résultats. Je veux savoir si c'est prometteur, parce que là, ça fait plus d'un an que ça existe. Ça. Apparemment, ça a commencé à l'Université d'Alberta. Puis à McGill, ça fait peut-être 2 ans là, qu'ils ont commencé ça. Puis
C'est pas fait chez nous. C'est essentiellement ce qu'on fait, c'est qu'on met un casque avec des électrodes et on utilise l'électrode pour stimuler. Un petit peu comme essayer de stimuler un muscle avec une électrode. On fait un peu la même chose avec les neurones du cerveau. C'est des collègues à McGill qui font ça. Ce que je comprends, c'est qu'ils sont en tout début d'étude. Puis encore une fois, pour des raisons financières, ils sont obligés de choisir un sous-groupe de patients bien défini avec peu ou pas beaucoup d'évolution de maladie. Puis c'est toujours une question d'argent. Quand on peut pas en prendre beaucoup, on prend des patients particuliers. L'étude va être si je me trompe pas, c'est sur plusieurs années. Fait que je pense pas qu'on ait les résultats à court terme. C'est intéressant, mais il faut comprendre que c'est une étude qui vise à peut-être trouver quelque chose qui va stimuler le cerveau, mais en rien guérir la maladie. Là. C'est très intéressant, mais c'est pas une solution permanente. Là.
Est-ce qu'il est toujours là, Pierre, avec nous?
Oui,
Pierre, dites-moi, votre femme, donc elle a quel âge maintenant?
Elle a 60 ans au mois de septembre.
Et elle est complètement Alzheimer?
Moi, oui. Puis ça progresse là, assez, de façon assez régulière, ça, on se rend compte. Là. Ma femme est aphasique, elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Oh. Puis c'est ça, puis des gens disaient que l'instruction, ça allait aider, mais ma femme était technicienne en hémodialyse à l'hôpital, puis ça n'a pas donné grand-chose. les formations, là, elle disait de stimuler le cerveau, ça en était ça, mais à un moment donné, quand la maladie te prend, là,
puis il y en avait dans sa famille, je suppose.
Ben, elle a une tante qui a 82 ans qui commence à en faire, mais sa mère, c'est les autres, non. Il n'y a pas. On m'a posé la question plusieurs fois. Mm. Puis là, il y a une tante là, qui a 82 ans qui commence à en faire. C'est la seule à notre connaissance.
Incroyable. Pierre, merci. Restez en ligne, on va prendre vos coordonnées. Ça, c'est intéressant, le cas de la femme de Pierre. C'est quand même jeune, là,
oui,
56
c'est une
ans.
Forme jeune qui a probablement une bonne composante génétique, mais pas la génétique forme jeune agressive. Peut-être un des autres gènes associés à la forme plus âgée.
Mais qu'elle aurait développé jeune.
Exactement.
Donc, ça voudrait dire quoi? Il y a mutation des gènes?
C'est ça. Mutation des gènes où elle a plusieurs gènes de risque, mais simultanément. Donc, admettons qu'elle a celui que j'ai découvert, puis on en a un ou deux autres. Je te l'ai dit tout à l'heure, on en a 25 aujourd'hui. Maintenant qu'on en a trois, mais ça fait qu'au lieu d'un Alzheimer à 80, c'est un Alzheimer qui est plus dans la cinquantaine. Mais c'est pas la forme jeune agressive, à ce que je comprends, puisqu'il n'y a pas d'histoire familiale claire. Parce que quand c'est là, crois-moi, on a la moitié de chaque génération qui souffre de la maladie. Ça te saute aux yeux, là.
J'ai une bonne question de Monty qui dit, est-ce que les souris dans l'étude machines ont mangé la même chose que les humains. Les études démontrent que l'Alzheimer, c'est souvent le résultat d'inflammation causée par les glucides. On en parlait un peu tout à l'heure, ouais, de l'alimentation. Ouais. On a parlé de l'exercice aussi. Et c'est clair que, bon, c'est clair puis c'est pas clair, mais les études sont faites sur des souris qui sont pas des humains, qui mangent pas forcément ce que les humains mangent dans la vie.
Exactement.
Donc, c'est difficile de dire, toutes choses étant égales par ailleurs, on n'a pas les mêmes conditions.
Je trouve ça tellement plaisant de vous entendre dire ça, toi, puis l'auditeur. C'est ça. Moi, je le répète depuis des années, puis on me dit toujours, non, mais on a mis le gène humain. Oui, mais c'est le gène humain dans le cerveau de souris. Et c'est une souris, ça vit 2 ans, ça vit pas 80 ans. Et si l'âge, le temps est important dans l'Alzheimer, bien, 2 ans, c'est pas 80. Si c'est une des composantes centrales, on le dit, le facteur de risque numéro un de la maladie d'Alzheimer, le tout premier, là, c'est l'âge, le temps. C'est pas la génétique, c'est en deuxième, puis les facteurs environnementaux, c'est troisième. Mm. C'est l'âge. Peut-être pas l'âge équivalent souris, c'est peut-être l'âge, le temps. Ça prend 60 ans de vieillissement, nos neurones vieillissent 60 ans. Et là, il y a des mécanismes qui éventuellement perdent de leur fonction. On ne le sait pas exactement, mais l'âge est le plus important facteur de risque. Il faut se le rappeler. Ça.
On va s'arrêter ici. Tout de suite après la pause, on va recevoir également un invité que tu connais bien, Jude. Il s'appelle Nicolas Saint-Pierre. Il est directeur général de la Fondation Mira. Pourquoi je voulais qu'on en parle? D'abord parce que ça fait longtemps que je veux revenir sur la question des chiens qui nous aident à passer à travers des épreuves de la vie. Et dans le cas particulier de l'Alzheimer, il y a un beau projet là, qui s'en vient avec Mira, des chiens Mira qui vont aider des gens atteints d'Alzheimer. On parle de ça tout de suite après la pause. Restez là, tout le monde.